Bonjour, vous êtes à l'écoute des Amis de Rouel, l'émission de Souriez, vous êtes filmé. Et ce soir, on va parler du FRAP, le Festival des Résistances et des Alternatives à Paris. Alors, c'était Brume Retina sur Radio Libertaire 89.4 MHz et c'était un choix de Bénédicte à la technique. Alors, ce soir, on va donc parler de la 10e édition du Festival des Résistances et des Alternatives à Paris, le FRAP. Alors, on a avec nous Camille. Bonjour.
Bonjour.
Jean-Marie.
Bonjour à tous.
Et Joy.
Salut.
Ainsi que Jean-Pierre, qui est
Bonjour.
Animateur invité ce soir. Alors, qu'est-ce que c'est que le FRAP ? On a déjà parlé dans cette émission, mais les années précédentes, mais un petit rappel, Jean-Pierre.
C'est Jean-Pierre l'Ancien, c'est lui qui sait.
L'idée du Festival des Résistances Alternatives de Paris, donc, c'est de chaque année de, qu'il y ait un espace, un temps donné, où on oublie un peu l'actualité militante et où on se donne les moyens de réfléchir à des événements, des. Qu'on puisse produire dans l'année et d'essayer de voir au-delà ce qu'on peut faire. En même temps, de découvrir des lieux différents et puis que ça serve en même temps de lieu de rencontre à différentes personnes qui, normalement, sont là à construire soit l'organisation dont tout le monde a besoin et qui font qu'ils n'iront pas discuter avec les autres. Et là... on se rend compte, on discute ensemble et plus si affinité. Et puis c'est aussi une conception par journée où on pense que il n'y a pas qu'un débat sec, mais on mange, on organise de la musique et chacun est libre de ses trajectoires pendant tout le festival. Quoi. On va d'un endroit, un endroit à l'autre de Paris, c'est aussi sur Montreuil cette année. Enfin, il y a
avec la précision que sur les lieux, c'est souvent des lieux qui sont, on privilégie de toute façon, des lieux qui sont autogérés. Ce qui permet aussi de faire vivre ces lieux-là et de faire se rencontrer des personnes qui n'ont pas forcément l'occasion de se rencontrer dans le quotidien de leur lutte et de pouvoir partager aussi là-dessus. Par exemple, sur la Marquise avec Jeudi Noir.
Et puis il y a aussi sur les lieux, c'est assez varié puisqu'on va commencer dans un lieu qui s'appelle au Jardin d'Alice, qui est au 40 rue de la Chapelle. Et puis il y a aussi EcoBox, il y a aussi.
Ouais, on va voir tous ces différents lieux en déroulant un peu plus tard le programme de cette édition. Comment est-ce que ça se prépare, une édition du FRAP, comment ça s'organise, qui sont les personnes qui sont derrière cette organisation? Alors Camille?
Alors, qui sont les personnes? Eh ben, c'est à la fois, enfin, c'est très varié, c'est pas, finalement c'est pas énormément de monde. C'est des gens qui soit se connaissent un peu au départ, soit ont participé, sont venus à des éditions précédentes du FRAP, à des soirées, des journées ou des événements organisés par le FRAP, et qui ont envie de s'impliquer. Donc c'est pas mal de personnes qui appartiennent ou non à différents collectifs, différentes organisations, que ce soit de, je sais pas, ça peut être de, des simples associations, ça peut être des syndicats, des organisations politiques. Et donc le moyen de décision d'organisation privilégié, donc c'est l'Assemblée générale du FRAP. Donc on s'organise tout au long de l'année. Alors on essaie de commencer plus ou moins tôt selon les disponibilités, les envies de chacun et de chacune. Cette année, on a réussi à commencer à se retrouver assez tôt. Si je ne me trompe pas, c'était vers octobre ou novembre 2009.
Septembre
même, voilà. Comme je n'ai pas pu assister aux premières AG, pour moi, c'est un peu décalé.
Voilà, donc, avec un rythme soutenu.
Alors, le rythme, au début, il est...
Une fois par mois, en AG
voilà, entre
générale.
Une fois par mois, une fois toutes les trois semaines. Et évidemment, sur la fin, donc typiquement en ce moment, ça s'accélère parce qu'il y a des impératifs.
Toute la partie logistique.
Notamment. Voilà. Et alors,
Ça sont les assemblées générales. Mais comme on va le voir, le programme est éclaté en différentes thématiques. Comment fonctionne, comment sont préparées ces thématiques par la suite?
Voilà. Donc lors des premières assemblées générales, les personnes qui viennent assister émettent les avis et les souhaits des thématiques qu'ils aimeraient voir abordées, des idées déjà de, je sais pas, ce qui peuvent être d'action, de lieux, de débats. De soirées, voire de concerts. Enfin, on fait une sorte de, on va dire, un brainstorming, pour parler comme les Anglais, de ce que les gens souhaitent faire. Et on essaye de regrouper les thématiques qui vont intéresser le plus de personnes possible dans l'organisation. À partir de là, on va constituer des ateliers en fonction des thématiques qui veulent être abordées. Et les ateliers vont se retrouver à part. Donc, de la même manière, tout le monde est bienvenu... à la participation aux ateliers. Et ces ateliers vont commencer à défricher un peu le sujet, savoir vraiment qu'est-ce qu'on souhaite traiter lors d'éventuelles journées ou soirées. Et après, on commence à parler de la forme. Donc, est-ce qu'on va faire un débat? Est-ce qu'on va faire une promenade? Est-ce qu'on va faire un atelier pratique? Est-ce qu'on souhaite faire un concert? Est-ce qu'on va faire à manger? Est-ce qu'on va faire une auberge espagnole? Bon, ça, c'est plus logistique, mais... ce genre de choses, et on réfléchit à des intervenants possibles, des groupes possibles, des collectifs qui sont très impliqués dans une thématique ou une autre, et on prend contact avec ces différentes personnes, et après on fait remonter tout ça en assemblée générale, où d'autres idées sont encore échangées, et ainsi de suite.
D'accord, et pour rester sur les questions pratiques, Joy, tu parlais de logistique tout à l'heure. Il y a un financement pour le FRAP. Comment ça se finance
Il n'y en a aucun. C'est-à-dire que...
Pourtant, il doit y avoir des frais.
Il y a des frais, mais le principe du FRAP, c'est de fonctionner avec, sur la base, 0 euro. Donc, voilà. On part du principe qu'on n'a rien et avec rien, au maximum, de l'entraide, de qui peut prêter une sono. Toutes les journées sont... Enfin, on propose que du prix libre. On propose des repas à prix libre. On propose des concerts qui sont à prix libre. De là, d'une année sur l'autre, eh ben, il reste quelque chose ou il reste rien du tout. Et puis, ce qui reste, généralement... ça se compte en petites pièces, mais
c'est thésaurisé pour l'année suivante.
C'est thésaurisé pour l'année suivante. Cette année, on va avoir des gobelets recyclables. On est super contents.
C'est quand même c'est par la buvette, si on peut dire, qu'on se finance. Et c'est par les appels.
La drogue et l'argent de la drogue.
Il faut consommer pour financer le FRAP, c'est ça.
Il faut boire beaucoup.
On fait aussi une caisse où on demande aux gens qui veulent de bien donner de l'argent. Parce que même si c'est gratuit, cette année, par exemple, on fait venir plusieurs groupes qui ne sont pas de Paris. Et donc, on essaye de défrayer les voyages et de faire en sorte qu'il y a les affiches à payer. C'est ça le principe même. Ça marche plutôt bien jusqu'à présent. comme quoi on n'est pas obligé obligatoirement d'avoir des subventions.
Tout à fait. Donc tu parlais d'affiches, il y a une magnifique affiche surprenante, m'a-t-on dit, qui va bientôt apparaître sur les murs de Paris, sur fond de petits damiers noirs et blancs. Donc bah, on va commencer par voir le programme du FRAP 2010. Alors déjà on va parler des dates. Ça commence le 7 mai, ça se termine le 18 mai. Et le 7 mai, à l'ouverture, ça commence par une thématique un petit peu récurrente dans cette édition qui est la thématique de la ville. Alors Camille, tu veux en dire quelques mots ?
Oui, je vais essayer d'être assez bref pour une première intervention. Donc c'était est ressorti des premières assemblées générales que la question de la ville, la question de qui habite la ville, comment on habite la ville, dans quel lieu, par quels moyens, et avec effectivement en filigrane cette question qui est assez récurrente sur Paris, de savoir que tout d'abord le centre s'est, on va dire, enrichi, pour utiliser des termes simples au départ. Et puis que du coup, les classes populaires ont commencé à aller plus vers la périphérie de la capitale, puis à commencer à sortir en proche banlieue, et que c'est un phénomène qui continue d'aller de l'avant. Et les personnes, les foyers qui n'ont pas les moyens sont obligés d'aller habiter de plus en plus loin, jusque en grande couronne ou à la campagne maintenant. Et donc On s'est posé la question. C'était une question qui avait déjà été posée lors de précédentes éditions du FRAP. Et du coup, on a commencé à organiser. On a commencé à réfléchir. Il y a eu plein d'idées qui nous sont tombées dessus. Et donc, on avait. On a décidé de diviser cette question de la ville sur trois journées, enfin trois moments du FRAP. Donc en ce qui concerne l'ouverture du FRAP, finalement on fait quelque chose d'un peu plus léger que ce qu'on fera plus tard, notamment lors du dimanche 9 mai. Donc le vendredi 7 mai, lors de l'ouverture du FRAP, donc on va aller au Jardin d'Alice, dont Jean-Pierre a parlé auparavant, et on va parler de moyens d'habiter, mais de manière assez soft. Donc, c'est-à-dire qu'au Jardin d'Alice, il y a quelqu'un qui a auto-construit en fait, une sorte de cabane, un habitat, alors pour le coup, qui est assez individuel, qui a une assez forte autonomie, donc notamment une autonomie énergétique, je crois. Donc, on va pouvoir visiter ça. Il va pouvoir présenter aux personnes qui vont venir au FRAP la manière dont il a construit ça et comment ça marche au jour le jour. Et on a invité un collectif qui s'appelle ZELDA, qui est un acronyme pour Zone Extra Longue Durée d'Autonomie, et qui développe un projet d'habitat partagé. Et en fait, c'est un collectif de personnes qui recherchent un lieu sur Paris ou proche banlieue et qui veut en faire un habitat collectif. Alors, à travers tout un montage qui fait que ça empêche la spéculation, ça empêche la revente, et à la fois tout le monde est propriétaire et personne ne l'est. Et voilà, donc ils vont nous parler de ce projet-là. Et on va commencer à aborder des thématiques plus sérieuses avec la projection de film Main Basse sur la ville.
De Francesco Rossi. Donc ça, c'est le premier jour, le premier soir, à partir de 19h, au Jardin d'Alice, 40 rue de la Chapelle. Et donc les deux autres journées dont on parlait, c'est celle du dimanche 9 mai, Gentrification et Grand Paris, et le mardi 11 mai, les projets immobiliers du Haut-Montreuil. Jean-Pierre ?
Tu me reprendras, Camille, si je dis des bêtises, mais il nous a semblé important, quand on s'interroge sur la ville, de voir que pour nous, on en a discuté, que le 18e et Montreuil, nous semblaient des enjeux immédiats, concrets par rapport à la gentrification des villes. Donc pour nous, ce n'est pas simplement débattre en l'air. En choisissant ces deux endroits, c'est tout de suite s'affronter aux luttes de maintenant et de demain.
Si tu peux définir le terme de gentrification, Jean-Pierre, que tout le monde connaît pas forcément.
Ben, gentrification, on peut penser que c'est l'embourgeoisement des villes. Et le terme originel, c'est pas tout à fait ça, mais politiquement, je pense que pour nous, pour le plus grand nombre, c'est le fait que les pauvres sont chassés vers la périphérie des villes, comme le disait Camille tout à l'heure. Et ce qui est vraiment, comment une ville qui a pu nous appartenir nous échappe tout d'un coup, et on en devient extérieur, mine de rien, petit à petit, par plein de... Un autre débat qui nous a paru important sur la gentrification et qui traverse peut-être d'autres journées du FRAP, qui est celui en fait, du système de la bourgeoisie, comment elle se développe. Parce que si on fait 3 jours sur la ville, celle qu'on vient de citer, il y a aussi la façon, le 14 mai, on le verra, comment l'écologie est elle-même récupérée par le système. Et aussi, à la fin, la domination domine les dominants. On verra à travers des petits films de Pierre Carle comment aussi la bourgeoisie vit. Et à travers cette façon de se situer par rapport au système capitaliste, c'est aussi la façon de réfléchir sur nos façons de réagir. Et une question qui traverse nos 3 journées sur la ville, c'est aussi de savoir si nous, par nos expériences alternatives, on n'ajoute pas nous-mêmes une plus-value culturelle à ce processus. C'est-à-dire, moi j'ai connu les Halles, il y a d'abord eu le projet urbain, et puis après il y a eu les squats, et puis après il y a eu les squats politiques, après les squats artistiques, et puis après les galeries, et puis après, c'est bon quoi, je veux dire, on est ailleurs. Donc c'est 2 questions, quoi, se situer par rapport au système, et voir comment nous on en est conscient, et comment nous... En étant conscient, on essaye de trouver les parades et d'aller ailleurs.
Alors tu parlais du 18e et de Montreuil, donc géographiquement, les deux autres journées sont réparties sur ces deux endroits. Donc le 9 mai, la journée s'appelle Gentrification et Grand Paris, qui aura lieu. Alors déjà, il y a une balade, ce que vous avez appelé une balade sociologique, en matinée à la découverte du 18e et du 19e arrondissement et des politiques de transformation en bourgeoisement des quartiers populaires avec Anne Clerval et Jean-Pierre Garnier. Donc ça, c'est ce qui aura lieu le 9 mai, plus l'après-midi à EcoBox avec des projections et des débats. Et l'autre journée aura lieu à Montreuil sur les projets immobiliers du Haut-Montreuil.
Ces deux journées, enfin, pareil, rectification si interprétation trop personnelle. Le 9 mai, c'est donc le FRAP qui organise cette journée sur le thème même de ce qu'on vient de dire. Hein. Mais Montreuil, c'est co-organisé avec les gens de Montreuil qui habitent le squat de la 2001. Et c'est une coproduction, si je veux dire. Et on tenait beaucoup à ce que les gens qui habitent Montreuil organisent eux-mêmes cette journée, qu'on puisse aussi les découvrir et voir ensemble leurs expériences d'habitat et de lutte, et de voir mutuellement voir ce qu'on peut s'apporter, quoi. Et sur le 9 mai, je ne sais pas si tu veux...
Bon, je pense je vais essayer d'être court. Donc il y a effectivement cette promenade donc qui va partir de Stalingrad et qui rejoindra EcoBox, donc rue Pajol, donc de l'autre côté des voies ferrées de la gare de l'Est. Et donc c'est là la charnière entre le 18e et le 19e arrondissement, c'est, je dirais, le terrain pratique aujourd'hui des phénomènes, alors, de gentrification, d'embourgeoisement. En tout cas, c'est sûr qu'il y a de véritables projets immobiliers qui s'y montent. Et bon, donc la question qu'on va se poser pendant cette journée, c'est de savoir, est-ce que c'est un processus social complètement incontrôlé, ou est-ce qu'il y a un véritable projet politique derrière, ou est-ce que c'est pas plus, comme on s'en doute, une sorte de nuance des deux, et de voir ce qui se passe. Parce que, évidemment, c'est toute la zone où on a le 104, on a le jardin des Halles. Au niveau de Marx-Dormois, on a beaucoup de... Enfin, même de la rue d'Aubervilliers, au niveau de Marx-Dormois, on a beaucoup de... comment dire, de rénovation d'immeubles, notamment du parc social, et ça a tendance, effectivement, à chasser les anciens locataires, en faire venir de nouveaux, qui, même s'ils peuvent toujours prétendre au parc social, ont tendance à avoir des revenus un peu plus conséquents. Et voilà, donc, et tout le reste de la journée, ce sera un peu sur cette thématique. Alors, on va parler beaucoup du Grand Paris, là, je ne voudrais pas trop m'attarder dessus, mais voilà, de dire que c'est encore un projet de politique urbaine, de politique de la ville, et que ça s'inscrit, à notre avis, dans ce processus, et comment il va être mis en place, comment les choses qui ne nous conviennent pas, on pourrait y résister. Ben voilà, c'est toutes ces questions qu'on va se poser.
Et juste avant, il y aura donc comme invité Éric Azan, qui est l'auteur de l'Invention de Paris. Et on verra comment, avant, par vagues successives, Paris s'est agrandi. Et tout. Et ça serait une façon d'aborder ce débat sur le Grand Paris, justement.
Ok. Eh bien, donc ça, pour ce qui concerne la ville, c'est donc le 7 mai, le 9 mai et le 12 mai.
Oui, quand même, la balade, on va faire aussi une balade et dans le 18e, une autre à Montreuil aussi. Mais c'est un petit clin d'œil quand même. C'est quand même un petit clin d'œil. C'est pas qu'une balade touristique, c'est un petit clin d'œil à Guy Debord qui nous a habitués à des dérives dans la ville, connotation quand même fortement politique.
On va faire une petite pause musicale avant de reprendre le programme.
Je voulais préciser, tout à l'heure, on écoutait Brume Retina qui passera au Frappe justement le dimanche 16 mai avec le groupe Insolite qu'on va écouter maintenant.
Et des illusions à crédit, frais du côté des crânes râlés, du côté de ceux qui s'accrochent malgré tout. Comme dit le singe, y'a plus de lâches que de lâches rien. Y'a plus d'extorsion que de paix. Y'a plus de gardiens que de paix. Y'a plus de mépris que de raison. Y'a plus de quatrième d'histoire. Et y'a encore des prisons. Tant qu'il y aura des prisons, y aura un maton dans mon crâne. Tant qu'il y aura des prisons, je me fous de la conquête de l'espace. Parle-moi de civilisation, je te dirai comme je m'en bats l'esprit. Je veux pas me mettre en vie, j'aime mieux être calme et tranquille. Mais j'y peux rien si ça me choque, moi, les wannabes chez. Tant qu'il y aura des prisons, y aura un maton dans mon crâne. Tant que ma folie ordinaire me rappellera d'être vivant. Je te dirai les mots verts, les mots qu'on dit avec les nerfs. Pas d'hier que je loue, enfant du progrès bâclé. J'ai la haine de ce monde au bord des lèvres. Il est venu le temps de rappeler quelques évidences. J'entends le bruit des bottes et des brûleurs de livres. Y'a comme des gorges à racler, la machine est à l'œuvre, la catastrophe à la clé. Des expulsions au débit, des vies raflées, des enfants au dépôt. C'est des prises d'ADN en force, c'est la chaîne, c'est la croissance de la Chine. C'est la République française. Je conjugue ma rage à l'absolu du subjectif. Pas vraiment à la page, je reste sujet objecteur. J'ai des terminaisons nerveuses, c'est l'imparfait qui fait merveille. L'œil cerné, le verbe acerbé, le pluriel rare comme l'air libre. Le fond de l'air est verdâtre, les têtes écrasent les vertèbres, les découvertes donnent le vertige. Je rêve du soleil vert qui décline, je rêve, je rêve. Je rêve de bulles qui crèvent et déclenchent la déroute des clones. Tant qu'il y aura des prisons, je me fous de la conquête de l'espace. Parle-moi de civilisation, je te dirai comme je prends pas l'esprit. Je veux pas me mettre en vie, j'aime mieux être calme et tranquille. Mais j'y peux rien si ça me choque, moi, les wannabes le chien. Tant qu'il y aura des prisons, y aura un maton dans mon crâne. Tant que ma folie ordinaire me rappellera d'être vivant. Je te dirai les mots verts, les mots qu'on dit avec les nerfs.
Voilà, alors avant de venir au thème de l'enfermement et des prisons, on va reprendre le programme du FRAP, de la 10e édition du FRAP, à partir donc du samedi 8 mai, Offensive et lutte sociale. Jean-Pierre, c'est encore toi qui présente cette journée-là ?
Eh bien, écoute, il faut croire que oui. Le 8 mai, c'est donc l'idée. Souvent, donc, on est dans l'activisme, on suit les luttes telles qu'elles se déroulent. Et en fait, on n'en fait jamais le bilan, ou alors d'autres les font pour nous. C'est-à-dire que, par exemple, ceux qui sont organisés vont avoir des petits séminaires ou vont disséquer, essayer de produire une analyse sur les mutations des luttes. Or, on peut se penser qu'il y a des cycles, des rythmes qui parfois nous échappent et qui méritent d'être mis en lumière. En 1995, après une période de glaciation des luttes, il y a eu une sorte de renouveau du mouvement social suite à l'occupation de la rue du Dragon au quartier latin, suite au mouvement étudiant contre le CIP et aussi la grande grève de décembre 1995 qui avait paralysé tout le pays. Après, il y a eu donc tout un renouveau avec une certaine autonomie du mouvement social où, quand il y avait des grandes manifs, il n'était pas pensable de voir des drapeaux d'organisations politiques dans ces rangs-là. Le mouvement altermondialiste est né, il y a eu aussi les actions contre les faucheurs, il y a eu toute une apogée donc de cette période-là. Et puis il y a eu une bataille sur le traité constitutionnel, et puis il y a eu les luttes sur le CPE. Et on peut se poser la question de savoir s'il y a toujours cette autonomie du mouvement social et si elle n'a pas montré ses limites, puisqu'on s'aperçoit maintenant dans les manifs qu'il y avait une manif sur les sans-papiers il n'y a pas longtemps, dans le 19e, et on voyait une forêt de drapeaux politiques dans ces manifs. Et certains ont rejoint des partis institutionnels qui étaient avant mouvementistes. Et suite au CPE, il y a aussi une autre nouvelle génération militante qui, elle, s'est radicalisée. Donc essayez, et la plus grande partie des gens sont quand même un peu à se chercher, à voir quelle perspective on peut trouver aux luttes. Donc ça, c'est une sorte d'outil que se donne le FRAP pour réfléchir avec tous ceux qui veulent à ces questions-là, essayer de maîtriser le temps politique pour rebondir ailleurs collectivement. C'est l'idée de se créer des outils comme ça pendant le FRAP. Et le soir, ça ne sera pas sur le mouvement lui-même, mais sur l'idée qu'entre différents collectifs activistes ou personnes qui mènent des actions, on puisse confronter nos expériences là-dessus et voir si au-delà, même ce soir-là, du 8 mai, on ne peut pas préparer ensemble des actions pour après le FRAP.
Ok, et cette journée-là se déroulera à la CIP, 14 quai de Charente.
Lieu lui-même menacé.
Lieu lui-même menacé par la ville de Paris.
Voilà.
On passe au lundi 10 mai avec une journée intitulée « Le sens du travail ». Oui. Camille ?
Donc, le sens du travail, en fait, c'est des amis qui participent au FRAP et qui participent aussi à la revue Offensive et qui ont sorti il y a maintenant un mois, un peu plus, un numéro avec un dossier consacré au sens du travail. Donc c'est une manière de dire qu'il y a aujourd'hui énormément de critiques sur le travail qui émergent. Alors évidemment, on va dire, du côté capitaliste, qui sont très contents, on va dire, de... Alors, je ne vais pas dire de dématérialiser le travail, mais de dévaloriser le travail, en fait. Parce que si le travail coûte moins cher, bah, ça veut dire plus de profit pour eux. Et aussi, donc, dans le camp progressiste, il y a donc, évidemment une critique, je dirais, sanitaire du travail, enfin, salutaire, pardon, du travail qui a été faite par tous les collectifs de précaires, de chômeurs, qui est en fait une suite, qui est en partie une suite de la critique du salariat qui a émergé au début du mouvement ouvrier. Mais les gens qui ont écrit dans la revue Offensive sur ce dossier-là ont perçu qu'il y avait un risque de dire on va de s'entendre quelque part avec le capitalisme sur la désappropriation totale du travail, des compétences, d'une certaine forme d'artisanat, d'une certaine forme de savoir-faire, et que ça serait une des plus grandes pertes, quoi. C'est de dire, bon, déjà, on se fait exproprier de nos lieux d'habitation, de nos lieux de vie à travers la ville et tout ça. Si en plus, on nous exproprie de notre savoir-faire, de nos compétences et de ce qui nous reste d'autonomie, ça a posé un petit problème. Donc, c'est pour poser la question en sens inverse, se réapproprier le travail, donc qu'est-ce que ça veut dire pour nous, le distinguer du pur salariat, et voir comment on peut... après, il y a plein de thématiques, c'est travailler ensemble, comment s'approprier des compétences, comment transférer les compétences, comment faire l'éducation populaire, ce genre de choses. Voilà, donc j'en sais pas beaucoup plus parce que je n'organise pas le débat. Mais voilà, donc il y a plusieurs invités pressentis qui n'ont pas été confirmés. Je crois qu'on parlait de ça. Il prévoyait d'inviter Daniel Linhart. Et sinon, il y aura des gens d'Offensive Libertaire Associée.
Différentes personnes qui ont participé à ce numéro sur le sens du travail.
Puis c'est un nouveau lieu qui s'appelle le 107 rue du Chemin Vert.
Voilà, c'est donc au 107 rue du Chemin Vert, non loin des studios. C'est là qu'aura lieu donc, ce débat sur le sens du travail.
Donc, pardon, ceci Jean-Marie. Dit, je rajouterai un petit commentaire qui fait écho à ce que disait Camille au tout début. C'est que la tendance n'est pas à la dévalorisation du travail, mais à la dévalorisation du salaire qui est finalement au cœur du fonctionnement capitaliste. Et en réalité, c'est une opération suicide pour lui, mais à plus ou moins long terme. Donc, dans ce cadre-là, on pourrait presque avoir une pensée optimiste.
Merci. On passe donc, on rejoint l'enfermement le mercredi 12 mai. On a sauté le 11 mai sur les projets immobiliers du Haut-Montreuil qui font partie de la thématique ville. Donc, au 10 rue de l'Odéon, l'enfermement.
Alors, je vais m'y recoller. Là, par contre, je vais mettre plein de guillemets et plein de réserves. D'ailleurs, pour l'instant, dans le programme provisoire qu'on a aujourd'hui, c'est bien précisé que le lieu est sous réserve. Donc, si jamais ça ne se confirme pas et qu'on a des personnes qui habitent au 10 rue de l'Odéon qui entendent ça, on s'excuse d'avance. Alors, le programme lui-même n'est pas finalisé. Je vais être assez bref. On voulait avoir un moment de réflexion sur l'enfermement. Alors, l'enfermement, on dira classique, qui est assez physiquement identifié dans le monde, c'est-à-dire l'enfermement dans un lieu donné. Donc, on pense naturellement à la psychiatrie, à la prison et au centre de rétention administratif. Et donc, avoir des débats là-dessus sur les nouvelles lois pénitentiaires, sur les nouveaux moyens de répression. Et en même temps, essayer d'articuler ça avec des enfermements psychologiques qu'on peut vivre au quotidien. Donc, ça va être l'enfermement dans... par exemple, le salariat, bon, c'est un peu caricatural, mais ça va être toute une relation de subordination et d'hiérarchisation dans le travail. Comment peut y avoir une oppression qui s'instaure psychologiquement par les supérieurs. Ça peut être la domination homme-femme classique, ou notamment au sein du couple, comment l'homme par des comportements violents, par des insultes, par certaines restrictions va s'imposer. Et ça peut être après d'autres enfermements qui peuvent être liés à des addictions, donc la drogue, la télévision ou l'isolement tout simplement, quoi. Et donc on propose de faire un théâtre image. Alors c'est une forme de théâtre forum assez particulière pour que les gens puissent essayer de mettre en scène l'enfermement ressenti au quotidien psychologiquement, et de créer le débat, les discussions avec le public. Voilà. Mais donc tout ça, c'est sous réserve pour l'instant.
Sous réserve du lieu. La forme du déroulement de la journée, c'est ce que tu as indiqué.
Voilà, mais on attend aussi des confirmations d'intervenants.
Est-ce que tu peux donner un peu de détails sur ce que c'est que le théâtre image? Parce que c'est vrai que moi, je ne sais pas du tout.
Alors, le théâtre image, c'est un théâtre qu'on va dire participatif où quelqu'un du public qui a une expérience à partager sur le sujet, donc en l'occurrence ce sera l'enfermement psychologique, l'enfermement quotidien, donc va utiliser des acteurs, qui sont sur scène et va les disposer pour en faire une image. Donc, c'est-à-dire que ce sera une image statique. Donc, elle va d'elle-même prendre les personnes par la main, les déplacer à certains endroits, les faire asseoir éventuellement, les faire manipuler des objets si on a des...
Des accessoires,
voilà. Et va essayer de mettre en scène une situation. Et pendant tout ce déroulement, le public pourra intervenir, poser des questions, et la personne se devra de répondre, et va y avoir une interaction entre la personne qui a fait cette image et le public. Et le public pourra proposer d'aller faire des modifications et venir. Donc, si quelqu'un a une suggestion, il viendra de lui-même sur la scène pour modifier l'image.
Ok. Et en plus de ce théâtre image, sont aussi prévus des débats et des projections de films réalisés par des détenus de la maison centrale de Poissy. Ça précise le programme, c'est bien ça. Alors, on va laisser la parole à Joy et Jean-Marie, je crois, pour la journée du jeudi 13 mai, qui est intitulée « Sextase, zone temporaire d'autonomie du sexe ».
Oui, alors c'est un peu difficile de parler de ce sujet qui a été énormément traité au moins dans les deux dernières générations. Donc, en fait, le but de notre démarche au sein du FRAP, ça a été de vouloir introduire un moment à la fois de respiration et qui soit aussi un moment différent par rapport aux sujets qui peuvent parfois être lourds qu'on a à traiter dans le festival. Alors on s'est dit que ce qui pouvait procurer une bonne respiration, c'est bien la question de la sexualité, ou plutôt des sexualités. Et de fil en aiguille, on a souhaité donc organiser cette journée où l'aspect politique sera évidemment abordé, quoique j'aurais préféré l'éviter, mais c'est impossible. J'ai dû le remarquer et j'en suis d'ailleurs fort aise. Et donc, on va avoir un déroulé de journée assez chargé entre expositions, musique et concerts, bouffe assez légèrement aphrodisiaque. On ne veut pas non plus esquinter notre public. Et puis, des débats. Donc, on aura Jacques Le Sage de La Haye. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'on avait pressenti plusieurs intervenants et que, finalement, ce sont des gens, on pourrait dire, d'obédience reichienne, ou en tout cas qui se sont intéressés à la sexualité, ou en tout cas à des sujets tournant autour de la sexualité à travers Reich, qui finalement ont confirmé leur présence à cette journée. Et donc on aura notamment Jacques Le Sage de La Haye, qui a décidé d'intervenir sur l'écart incroyable qu'il y a entre le sexe virtuel qui domine nos sociétés aujourd'hui, si je puis dire, parce que c'est pas le cas pour tout le monde quand même. On n'est pas tous totalement dématérialisés dans notre fonction sexuelle, pourrait-on dire. Et donc entre cette virtualité et le bon vieux corps à corps, on pourrait dire. Et puis, on aura aussi le miel qui s'intéresse aussi, qui est d'obédience reichienne aussi et qui saura, entre autres, nous parler du poil, qui est un problème qui, à mon avis, a une importance symbolique extrêmement forte, mais qui saura aussi, je pense, nous parler d'autres sujets. On aura donc ces deux débats.
Et Jean-Marie, tu peux peut-être présenter Wilhelm Reich, parce que tu
Wilhelm Reich,
on a parlé, mais
c'est pas celui que je connais le mieux. Ce que je sais, c'est que on pourrait dire un homme assez complet. Il a été à la fois militant, psychanalyste. Il a énormément travaillé autour. Ouais, ce serait difficile d'en parler parce que en fait, on aura un expert sur le sujet et j'ai peur de dire énormément de conneries. Ce que je sais, c'est que pour lui, la sexualité et la question de l'orgasme sont au centre du comportement des individus en société et du devenir de ces sociétés au niveau politique. Alors là, je le dis de manière très générale et j'espère que je ne vais pas me faire taper sur la tête par les experts s'ils écoutent l'émission ce soir.
Donc, pour plus de précisions, rendez-vous le 13 mai.
Voilà, vous en saurez beaucoup plus que ce que je peux vous dire maintenant.
Je vais quand même préciser, le 13 mai, ce n'est pas le le jour de l'Ascension.
Oui, enfin, on a décidé finalement de le rebaptiser le jour de l'érection. Faites circuler à vos voisins.
Puis il y a quand même deux bons groupes. Il y a quand même les Cellophane, qui est un groupe de violoncelle. Et puis, je n'arrive jamais à dire le nom.
Puis Bactérienne Cavalcade, qui est un groupe de filles qui font du punk crust.
Et tout ça sera dans un très bel hôtel particulier.
Oui, ça c'est magnifique. Je vous convie à venir rien que pour voir l'hôtel particulier. Parce que dans ce cadre-là, ça promet d'être une journée agréable. Et si on a le soleil, ce sera tip-top niveau.
Alors, à cette journée aussi, il y a une... Tu t'en parlais tout à l'heure hors antenne, une exposition Sextase, Fabrique ton orgasme. Et c'est une exposition participative. Tu peux peut-être lancer les appels à participation.
Ouais, bah, très bonne idée, justement. Voilà, donc l'idée a été émise d'organiser une exposition où il s'agirait, pour les gens qui viennent à cette journée, de se munir de son petit objet, de son petit fétiche, de son petit symbole ou de sa petite construction artistique à exposer dans un endroit qu'on va prévoir à cet effet. Et c'est donc dans cet esprit-là que cette expo est dite participative, parce que soit l'espace prévu sera vide, soit les gens se prendront au jeu et on aura un magnifique trésor d'intervention symbolique
de l'orgasme.
De l'orgasme, de l'orgasme, je sais pas.
Des objets représentant l'orgasme, donc c'est ça.
Des objets représentant ce qui fait vraiment kiffer les gens en matière de sexualité. Alors que ça débouche sur l'orgasme, c'est à mon avis facultatif. Mais si ça débouche sur l'orgasme, évidemment, ça c'est une cerise sur le gâteau qu'on ne saurait se refuser.
Je voudrais quand même dire que le frappe a quand même... Ce thème a quand même provoqué quelques controverses au sein du frappe, hein, quand même. La liberté a été donnée à l'atelier Sextase de s'épanouir, mais ça n'empêche pas les débats au sein du frappe.
L'épanouissement a été frustré.
Ben, c'est-à-dire qu'au début, quand on a proposé le thème au cours des premières AG, il y a eu un moment de flottement qui s'est un peu prolongé. Parce que certains voyaient mal ce qu'un tel sujet pouvait venir faire là. Enfin, non pas que ce soit impossible pour eux, mais que dans leur esprit, ils ne comprenaient pas très bien.
Alors, le thème de départ était le rapport au corps, et les personnes du frappe ne voyaient pas trop le rapprochement politique qu'on pouvait faire à partir de là.
Donc, en fait, on a essayé de s'expliquer. Et maintenant, apparemment, la journée est en passe de devenir, comment dire, la mascotte du frappe. On peut faire ce pari.
Donc, on verra ça le mois prochain. On va faire une petite pause musicale avec Didier Super. Et on va terminer le programme. Joy, tu avais un...
Juste une dernière chose sur le miel. On n'a pas précisé, tout le monde ne connaît peut-être pas. C'est le mouvement international pour une écologie libidinale.
D'accord, qui interviendra théoriquement à 17h selon le programme, le 13 mai. Donc on se retrouve après Didier Super.
Le chat. Le chat, viens ici. Viens ici, chat. Viens là, bâtard. Viens là. Viens là. Petit caniche, peluche pour vieux. Quand ta voix c'est tellement aiguë que tout le monde y croit que t'es une femelle. Petit caniche, peluche pour vieux. La perruque à ta mémé, c'est tout ce qui reste de ta mère. Petit caniche, peluche pour vieux. Tellement que t'es con, tu sais même pas que t'es un caniche. Petit caniche, peluche pour vieux. C'est parce que mémé, elle t'aime bien, qu'un jour, elle va t'empailler. Petit caniche, peluche pour vieux. En fait, quand t'es né, ta mémé, elle aurait voulu un chat. Petit caniche, peluche pour vieux. Ta mère, avant que tu naisses, elle a été avec plein d'autres chiens. Allez, viens là, le chat. Allez, viens sur mes genoux.
de faire un tour de manège avec Didier. Allez viens, n'aie pas peur, n'aie pas peur le chat, ça va pas faire mal. Petit caniche, peluche pour vieux, t'as mal à ton zizi tellement que t'essayes de niquer tous les meubles. Petit caniche, peluche pour vieux, si je te chope, je t'entoure de chatterton pour fuck t'exploses quand je t'encule. Petit caniche, peluche pour vieux.
Donc on va continuer sur... On va continuer avec le programme du FRAP, avec le vendredi 14 mai, ce qui est consacré à l'écologie et au capitalisme vert. Et qui est en charge de cet atelier pour le présenter ? Jean-Pierre ?
Coproduction avec Jean-Marie. L'idée, donc, c'est d'aller, comme chaque année, pratiquement au mur à pêche à Montreuil. Et au début, on avait prévu de faire sur la biodiversité, parce que c'était le thème universel de l'année. Et puis on s'est dit quand même... Ça commence à bien faire. Tout le monde est devenu durable. Et puis, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on peut encore appeler écologie, alors que tout le temps, tous les jours, on n'y reconnaît plus nos petits, quoi. Je veux dire, on se demande comment on a pu... Quel est le sens, maintenant, de ce combat-là ? Et on a intitulé cette journée « Comment reprendre la maison en vert sans rien changer à l'intérieur ?» L'idée, c'est de dire que ça ne sert à rien de faire une agriculture intensive bio si on ne réfléchit pas sur les rythmes, sur le mode de vie, sur cet ensemble-là. Donc, redéfinir ce que c'est que l'écologie pour nous. Je crois que c'est à peu près ça.
Et ça va même un peu plus loin que ça, parce que je vois qu'il y a aussi un atelier sur le langage de la publicité. Le langage de la publicité qui lève plus vert.
Oui. Alors, pour paraphraser Jean-Pierre et le redire à ma manière, en réalité, cette journée a été un peu prévue pour essayer de réfléchir sur la manière dont le système capitaliste, puisque c'est comme ça qu'il convient de l'appeler, essaye de faire la bascule pour éviter de sombrer corps et âme et il n'a rien trouvé de mieux à faire que de s'accorder un sursis à travers cette question de l'écologie. Alors le capitalisme vert, ce n'est pas nous qui avons inventé le terme, il existe depuis déjà un certain temps et pas nécessairement du bon côté de la barrière. Mais pour répondre à ta question, attends, j'ai perdu le fil de ta question.
C'était l'éclectisme du sujet sur le capitalisme vert qui n'était pas simplement dédié... à l'agriculture et au bio.
Oui, voilà. Donc, on s'intéresse aussi au langage publicitaire. Enfin, on va tenter de s'y intéresser. On va tenter justement de défricher cette question-là, parce qu'à travers le langage publicitaire, à travers le discours marketing, à travers une espèce d'ambiance pseudo-culturelle généralisée ou en cours de généralisation, on se retrouve dans un univers radieux qui nous promet un système totalement réformé, qui respectera la planète, où il s'agira de sourire comme à l'époque où Euro Disney s'est installé à côté de Paris, mais parce que nos dents seront toutes vertes.
Oui, c'est aussi un discours qui dépasse largement la publicité. Toutes les entreprises, toutes les grandes entreprises aujourd'hui ont une charte protection de l'environnement.
Oui. Tout à fait. Mais il y a un double enjeu derrière cette histoire du capitalisme vert. D'abord, il y a un enjeu marketing, parce qu'il faut absolument ajuster son image au nouveau modèle culturel que le système capitaliste porte lui-même. Et puis, il y a un autre enjeu plus sournois, c'est que le système aimerait quand même un peu perdurer et qu'il a l'impression que les choses ne tournent pas très rond dans ses modes de production et d'exploitation du monde. Alors, comme il est en train de tout dévaster et que les pays en voie de développement, comme on les appelait encore il y a peu, sont en train de suivre leur voie et n'ont pas l'intention de reculer parce que, justement, eux aussi veulent profiter, eh bien, il s'agit vraiment de trouver des solutions ric-rac, quoi, pour éviter la catastrophe et le mur.
Donc, cette journée aura lieu à Montreuil, au mur à pêche, c'est bien ça ?
Oui. Ouais.
Après, quand même, à 11h30, un rendez-vous au métro Robespierre pour une petite action pédagogique.
Oui, alors, on dit toujours à Montreuil au mur à pêche. En fait, cette journée aura effectivement lieu à Montreuil au mur à pêche. et surtout en collaboration avec le Sens de l'Humus, qui va nous accueillir sur sa parcelle et sur un terrain collectif proche de cette parcelle, et avec lequel, évidemment, on travaille ensemble, en fait.
On passe au samedi, le samedi 15 mai, avec une journée intitulée « Aux sources des migrations, Afrique, main basse sur la terre ». Donc c'est une journée qui aura lieu au ministère de la régularisation de tous les sans-papiers, 18 rue Baudelic.
Alors, ce qui paraît important au-delà du programme, et c'est le lieu déjà, Baudelic, un lieu occupé par tout un certain nombre de collectifs de sans-papiers, mais c'est surtout l'idée de faire avec les gens de la rue Baudelic, de ne pas les constituer, de ne pas faire qu'ils soient considérés. Voilà, c'est des sans-papiers, donc on va faire une journée sur les sans-papiers, en reprenant tout ce qu'on sait déjà sur les sans-papiers pour montrer qu'on s'intéresse aux sans-papiers. Nous, ce qui nous a paru intéressant de faire avec eux, c'est une journée avec les gens qui occupent la rue Baudelic sur des sujets sur lesquels on ne les attend pas, qui sont sur les sujets de l'alimentation en Afrique, de comment eux-mêmes ils voient le développement en Afrique. C'est aller au-delà de nos images militantes pour rencontrer vraiment des gens rue Baudelic. Et c'est ça, je pense. Il n'y a pas les
la journée, c'est constitué en coproduction avec
la rue Baudelic, oui.
Donc, qu'est-ce qui va y avoir au programme de cette journée?
Alors, 13h30, projection d'Alphaville, un film qui dure 1h39.
Je crois que tu te trompes de...
Ah, pardon. Donc,
C'est assez surprenant.
12h30, pardon, oui. 12h30, concert de l'Orchestre panafricain. 13h30, présentation de la journée par le FRAP, donc ce dont on vient de parler. Donc, présentation du ministère de la régularisation de tous les sans-papiers. 14h, projection de Noir Coton, un documentaire de Julien Després et Jérôme Polydor sur le Burkina Faso, du coton à la souveraineté alimentaire. Ensuite, une projection d'un autre documentaire sur la grève des travailleurs de Wicoma au Mali. À 15h30, un débat sur l'agriculture, l'alimentation en Afrique et l'immigration, avec des collectifs de sans-papiers qui sont en contact avec la Bourse du Travail de Bamako et des marcheurs vers Nice. Une pause slam avec un concert d'Abkas et 19h, atelier de semences avec le Sens de l'Humus, des contes pour enfants et préparation d'un repas collectif là-bas sur place, suivi d'un concert de l'orchestre panafricain.
Dimanche 16 mai, alors ça c'est une thématique plus appropriée au thème de l'émission, contre le fichage, le flicage, la délation, jouons collectif.
Eh ben, c'est une journée co-organisée aussi avec la CNT sur ce thème-là, avec des syndicats de la CNT qui sont confrontés donc aux sécuritaires dans leurs activités,
c'est-à-dire professionnels.
L'éducation, les travailleurs sociaux. Donc, ce sont deux syndicats de la CNT qui organisent avec nous cette journée. Et on va essayer de voir dans un premier temps où on est, la technique et la délation, c'est-à-dire tous les outils qui sont mis en place pour nous fliquer dans le monde des entreprises. Et puis ensuite, ce sont les gens donc de ces secteurs-là, travailleurs sociaux ou éducateurs, qui parleront de comment ça se traduit dans les luttes concrètement. Ça, ce sont les thèmes des débats. Hein, donc, mais on commencera par la projection pour nous mettre dans l'ambiance sereine du monde nouveau. On regardera Alphaville de Jean-Luc Godard à 13h30. Après, on entendra les débats avec les technologies donc au service du fichage avec Jérôme Torel des Big Brother Awards, des différents collectifs anti-délation. Je pense même que ça ne m'étonnerait pas qu'on parle de la vidéosurveillance, de la biométrie et des nanotechnologies, ça ne me surprendrait pas. Et ensuite, il y a une pièce de théâtre qui s'appelle Terre d'Argile qui jouera une pièce qui s'appelle La Grève Générale. Et puis, le deuxième débat dont je vous ai déjà parlé, une autre pièce de théâtre qui s'appelle...
Pourquoi j'ai cambriolé ?
C'est déjà tout un programme. Et on parlera cette fois-là du procès d'Alexandre Jacob au début du siècle dernier. Et après un repas tout à fait autogéré, on écoutera enfin Insolite, un groupe mythique qui a participé à la création du FRAP. Et puis je crois qu'il y a un autre groupe qui n'est pas encore...
Brume Retina, qu'on a entendu en début d'émission.
Oui, tout à fait. D'accord. Et ça aura lieu donc à la CNT, 33 rue des Vignoles. C'est bien ça.
Ouais, exactement, aussi un indémodable du FRAP. Okay.
Le lundi 17 mai, une soirée intitulée « Construire l'anarchie » qui aura lieu au Moulin à Café.
C'est tout un programme, pas la peine de dire encore plus. Non, ce que je voudrais simplement signaler, c'est que, par exemple, sur ce que je disais tout à l'heure par rapport à 1995-2010, faire nous-mêmes le bilan des politiques, des luttes qu'on peut mener depuis des années, ou définir ensemble, et quelles que soient nos orientations, les perspectives à venir, c'est pareil que sur Construire l'anarchie. C'est... l'anarchie, c'est un courant qui existe depuis longtemps, qui nous concerne. On fréquente tout le temps des militants anarchistes. Nous-mêmes, on se revendique libertaires. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière, au-delà des tracts ? Donc, l'idée, c'est d'inviter les différents. La Fédération anarchiste, Offensive sociale et libertaire, l'Organisation communiste libertaire, j'en oublie un, qui est Alternative libertaire. Et. Autour d'un numéro d'offensive qui s'appelle « Construire l'anarchie », de voir le projet anarchiste, de voir les pratiques libertaires, et de, autour de cette table ronde, essayer nous-mêmes, collectivement, d'aller au-delà des simples organisations pour voir comment ce courant se perdure et peut se développer.
Ok, et la dernière journée ?
On écoutera quand même Riton à la Manivelle. On ne peut pas parler de l'anarchie sans écouter et chanter avec Riton à la Manivelle. Et regarder un film qui s'appelle...
Les Moissons de la Révolte.
Qui est intéressant parce que c'est pas l'anarchie telle qu'on l'a vue dans le temps. C'est une récupération collective de terres en Andalousie en 2008. Hein.
Donc ça, c'était la journée, la soirée plutôt Construire l'anarchie, le 17 mai et le 18 mai, à la Maison des Métallos.
Je reviens sur le 17 mai au Moulin Café, mais c'est 9 places de la Garenne au métro Pernetti, dans le 13e.
14e.
Une soirée du FRAP rive gauche.
Voilà.
On sent que tu habites rive gauche, hein, que tu ressens une certaine amertume quand même.
La domination domine les dominants, c'est le mardi 18 mai. Oui. À la Maison des Métallos, c'est la dernière journée, donc il va conclure la 10e édition du FRAP.
Voilà, donc le thème se fait, c'est essentiellement par rapport à la projection qui va avoir lieu, qui sont donc les trois petits films contre le grand capital. Donc les trois petits films contre le grand capital, c'est effectivement trois films qui ont été regroupés dans un DVD par Pierre Carle et Le Plan B durant cette année, qui sont trois films à propos de la bourgeoisie, en fait, même de la grande bourgeoisie. Et il y aura un débat avec le réalisateur d'un des films, qui est L'Initiation, qui est assez marquant sur toute une classe préparatoire privée, si je ne m'abuse, aux grandes écoles de commerce. Et donc, il fait tout un week-end de préparation dans un hôtel en banlieue parisienne. Et c'est assez instructif.
Voilà. Jean-Pierre ?
Je voudrais quand même dire que le titre générique du FRAP 2010, c'est « Irrécupérablement vôtre ». Et que l'idée, pour ça, c'est de, comme d'habitude, de montrer qu'on multiplie les lieux différents, les groupes différents, et que c'est ça qui nous paraît le plus important, alors que le système essaye de nous récupérer, de lui faire une sorte de doigt d'honneur, si je peux me permettre, et d'être irrécupérable.
On est arrivé à la fin du programme, avant la fin de l'émission, ou tout juste. On va, alors pour plus de détails, il faut peut-être rappeler un site internet éventuellement pour les personnes qui louperaient l'affiche et le programme collé sur les murs de la capitale.
HTTP frappe2010toutattaché.org. Surtout ne tapez pas www parce que c'est un sous-nom de domaine.
Eh bien, merci. Et je rappelle de la même façon le site internet de Souriez, vous êtes filmé, souriez.info, qui a des petits soucis en ce moment, mais bon, ça ne saurait tarder de. Il sera bientôt rétabli. Au revoir.
Merci.
Au revoir, on frappe.